exceptionnel. Bénédiction à tous. Donc, on va prier pour débuter cette dernière matinée de la semaine qui nous a mené dans un grand périple aux côtés de Élie et Élisée. Donc, on va prier avant de lire ce matin. Alors, Seigneur, nous te bénissons pour toute cette semaine qui s'est écoulée. Semaine à travers laquelle tu nous as parlé, tu nous as instruits. Et semaine à travers laquelle, Seigneur, tu nous as permis de nous interroger sur notre cheminement avec toi et de chercher, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Aujourd'hui, Seigneur, en cette dernière journée de bénédiction matinale pour cette semaine, nous te demandons d'ouvrir notre entendement et notre compréhension. Que ta parole, Seigneur, puisse trouver un terrain qui est propice afin qu'elle s'enracine, qu'elle croisse et qu'elle vienne apporter un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère qui sont réunis ce matin. Que ta grâce leur soit accordée et que tu nous permettes tous et chacun, Seigneur, d'avancer et de progresser dans ton service, de progresser, d'avancer, de croître, afin d'être les serviteurs, les servantes que tu désires, les hommes et les femmes, Seigneur, en qui tu prends plaisir. Alors que toute la gloire te revienne ce matin, durant toute cette journée et jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je relis le texte au complet cette semaine, tout simplement pour faire une bonne conclusion de l'ensemble de ce que nous avons vu à travers ces cinq dernières journées. Bien sûr, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois au chapitre 2. Je vais lire du verset 2 jusqu'au verset 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors il y prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et ils dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? » Et on va s'arrêter là ce matin. Alors, on a vu cinq étapes, ou on voit la cinquième aujourd'hui. On a vu l'étape de Gilgal, qui était l'étape des premiers pas avec Dieu. L'étape où on change de mode de vie et de statut. Étape où on s'identifie à Dieu, on s'identifie au peuple de Dieu. Étape où on prépare l'avenir, où on confesse nos péchés et on connaît une repentance. Et on a dit qu'une repentance était vraiment un volte-face dans le lexique ou dans la langue hébraïque, qui veut dire un volte-face à 180 degrés. On a vu que c'était aussi l'étape Gilgal où on élisait un roi et on établissait un roi sur notre vie. Donc un roi qui nous dit quoi faire et comment faire et auquel nous nous soumettons. L'étape de Bethel était l'étape des premiers pas dans l'Église. Donc l'apprentissage de la vie spirituelle, un engagement ferme envers notre Dieu, un service envers l'Éternel, on commence à servir au sein de l'Église. On apprend à reconnaître la présence de Dieu, on apprend à reconnaître la voix de Dieu. On expérimente la communion fraternelle, la fréquentation des saints et de nos frères. On apprend aussi que à la chute potentielle existe aussi la possibilité de restauration divine. Et on apprend la crainte de Dieu, le respect profond qui est dû à Dieu. Mercredi, on a parlé du croyant de Jéricho et c'était les premiers pas dans le monde spirituel. Les pas dans les miracles, dans les prodiges, dans le combat spirituel. Dans ce principe où on apprend comment Dieu combat pour nous, où on apprend l'autorité de Dieu. Où on apprend aussi la correction et la discipline de Dieu à notre égard. C'est aussi l'endroit où on apprend la conversion et l'intégration au peuple de Dieu à travers cette prostituée Rahab qui va sauvegarder les espions et qui va être amenée à être partie prenante du peuple juif, allant même jusqu'à participer à la lignée du Messie. Et on apprend enfin à Jéricho l'altruisme ou le fait d'être bon et débonnaire envers notre prochain. Hier, on a vu les croyants du Jourdain, donc juste avant que Élie et Élisée ne traversent le Jourdain. Et on a vu que c'était une étape de maturation spirituelle. On apprenait à marcher par la foi et non plus par la vue. On acceptait la volonté divine comme étant parfaite, on s'y soumettait. C'était aussi l'étape d'une préparation pour une succession entre Élie et Élisée, entre Moïse et Josué aussi qui s'est passé au Jourdain. C'est donc une préparation, oui, de la succession. C'est le fait d'embrasser et de s'adapter au changement de statut pour le peuple, pour les serviteurs. Préparation au grand changement, c'est aussi l'époque de l'expérimentation pour la nouvelle génération. Cette nouvelle génération de serviteurs a aussi le besoin et le devoir de faire ces expériences et ces expérimentations. C'est aussi l'endroit, le Jourdain, qui est où on apprend à respecter les limites que Dieu impose quant à son appel, quant à son service, quant à ses demandes et exigences par rapport à notre travail. Et c'est l'endroit où on apprend à servir Dieu en toute humilité et en toute soumission. Et l'endroit finalement où on décide et on a ce désir profond d'accomplir la parfaite et complète volonté de Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve de l'autre côté du Jourdain. Les 50 fils de prophètes sont toujours sur une rive. Élie et Élisée, après qu'Élie ait frappé les eaux de son manteau, les eaux séparent, les deux traversent. Et les voilà qui se retrouvent de l'autre côté du Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain, j'appellerais ça la route vers le service. J'aurais pu parler énormément d'Élie. Et ce que Élie va faire dans ce moment-là est en soi un enseignement. Mais comme durant toute cette semaine, on a parlé davantage de la croissance spirituelle à travers le personnage d'Élisée, donc je préférais rester ici simplement avec un choix très éditorial de nous concentrer strictement sur Élisée. Ici, on va avoir Élisée à un moment donné qui est seul à seul avec le prophète, puis Élisée qui est resté seul une fois que Élie est enlevé, et après ça, Élisée qui invoque l'Éternel et Élisée qui est couvert de la puissance de Dieu et qui lui aussi est capable de séparer les eaux, à l'instar de son maître qui l'avait fait quelque temps plus tôt. Ici, j'aimerais aborder la question d'être seul. Parce que Élisée va se retrouver seul, à seul avec le prophète tout d'abord, seul à seul avec lui-même et seul à seul avec Dieu. Et plusieurs personnes ont peur de se retrouver seul. On est seul, mais on n'est pas esseulé. Il y a une grande différence entre être seul et être esseulé. Et ici, jamais Élisée n'est à l'extérieur du regard de Dieu. Jamais il est à l'extérieur de la main toute-puissante de Dieu. Jamais il est à l'extérieur de la volonté, du plan et du regard et de l'intervention de Dieu. Tout ce voyage depuis Gilgal jusque sur l'autre rive du Jourdain, qui est en fait l'arrivée dans un désert, il est constamment dans le plan de Dieu et dans le travail que Dieu fait sur sa personne. Et à travers chacune de ces étapes, il a eu des décisions à prendre qui l'ont fait progresser, croître. Et nous aussi, aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur d'être seul. Différence entre seul et solitude. La solitude, c'est vivre difficilement le fait d'être seul. Nous sommes un peuple et nous vivons de façon grégaire, donc de façon commune, nous vivons ensemble. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. On a vu il y a quelques semaines le psaume 133 qui disait qu'il est beau et qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et on expliquait que le fait de demeurer ensemble, il y avait des bénédictions rattachées à la vie commune de l'Église et du peuple de Dieu. Mais de surcroît à ça, il y a une importance toute particulière à des moments où nous ne sommes pas devant la foule. Et les premières choses qu'Élisée va faire dans son service ne seront pas devant la foule. Plusieurs cherchent à servir Dieu, mais en pensant que servir Dieu est nécessairement devant la foule. Le premier service qu'Élisée va faire va être seul à seul avec Élie. On nous dit qu'Élisée lavait les mains d'Élie. Son service principal était de prendre soin du prophète. Il était le disciple du prophète, il était le serviteur du prophète, il était l'étudiant du prophète, et dans son mandat, c'était d'assister, de secourir, de prendre soin du prophète. Et il l'a fait et il a quitté ce travail-là, en sachant qu'il y avait une bénédiction à être seul à seul avec son maître. Puis il a été seul à seul avec lui-même. Et parfois, dans la véracité du ministère, on se retrouve régulièrement seul avec nous-mêmes, seul avec les batailles qui se passent à l'intérieur de nous, seul avec les conflits spirituels qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, mais aussi seul à seul avec Dieu. Et le serviteur de Dieu doit cultiver cette solitude avec Dieu, ou ces moments de seul à seul avec son maître spirituel, seul à seul avec son Seigneur. Il est important que nous ayons ce temps de dévotion, ce temps de recherche de la face de Dieu, seul à seul. on va trop dans une extrême et l'autre. Il y a les moines que j'appellerais, ceux qui vivent une vie monastique, donc qui pensent qu'ils doivent s'isoler et vivre à l'extérieur de la populace. Et il y a les autres qui doivent à tout prix constamment être entourés d'un tas de personnes. La croissance spirituelle, l'équilibre spirituel, la santé spirituelle est un équilibre entre les deux. Avoir des temps où nous sommes effectivement tous ensemble, et il ne faut pas négliger ces temps-là, mais aussi avoir des temps où nous nous retrouvons seul à seul avec Dieu, et là encore, il ne faut pas négliger ces temps-là. Si tu rentres dans le service de Dieu en espérant les foules et les acclamations, tu vas être déçu parce qu'une bonne partie du travail se fait dans la solitude. Ce matin, je suis devant vous pendant une demi-heure, 45 minutes, en train d'exhorter, en train de partager. Donc, il y a des gens qui me regardent, mais la majeure partie de ce temps qui a permis cette dévotion est un temps que j'ai passé seul à seul avec ma Bible, avec l'étude, avec la prière, avec la recherche de la face de Dieu. Donc, l'exposition publique du ministère, c'est simplement un petit pourcentage de l'œuvre, un petit pourcentage du travail qui est en fait backé ou appuyé ou soutenu plutôt par un tas de travail, de travaux qui sont faits seul à seul dans l'isolement, dans la recherche de la face de Dieu personnellement. Alors, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas fuir le fait d'être seul. On est seul, mais nous ne sommes pas esseulés. Deuxième point, on se rend compte ici que Élie va poser une question importante à Élisée. Que veux-tu que je fasse? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élie a attendu ce moment où il serait seul avec Élisée pour lui demander quel est l'héritage que tu veux que je te laisse. Parce qu'ici, il sait qu'il s'en va. Et son serviteur, Élisée, sait que dans quelques instants, dans quelques minutes ou dans quelques heures, on ne sait pas combien de temps ça a pris entre le moment où ils ont traversé le Jourdain et le moment où le Seigneur vient l'enlever dans un tourbillon. On ne sait pas combien de temps ça s'est passé, mais ils savent tous deux qu'ils sont en train de vivre les derniers moments de leur duo, le dernier moment de leur communion fraternelle. Et Élie, maître, mentor d'Élisée, va demander à son pupille, va demander à son disciple, qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te laisse en héritage? Et il est important pour nous de ne pas vivre notre vie spirituelle sans avoir ce désir de laisser quelque chose à la génération qui suit. J'ai été privilégié d'avoir un héritage qui m'a été transmis, non seulement par mes parents biologiques, qui sont chrétiens, qui ont servi Dieu, qui servent encore Dieu et qui m'ont couvert et qui m'ont donné un héritage spirituel. Mais vous savez aussi que j'ai été sous la tutelle du pasteur Fontalvo, qui m'a donné aussi mes premières opportunités de service, qui m'a guidé dans mes premiers pas du ministère officiel et qui a été là pendant tous ces derniers moments de sa vie, où il m'a légué un héritage. Il est important, et c'est peut-être parce que moi-même j'ai bénéficié de cet héritage, que je suis conscient qu'il est important que moi aussi, je réfléchisse, je prie à ce qu'un héritage puisse être légué de mon propre parcours et de mon propre ministère. Je vous dirais que depuis déjà plusieurs mois, dans mon intercession, il y a différentes générations qui sont plus jeunes que moi pour lesquelles je me préoccupe et desquelles ou pour lesquelles je prie en demandant, Seigneur, est-ce qu'il se pourrait que dans ces générations-là, il y ait des serviteurs potentiels, dans lesquels je puisse effectivement m'investir, comme le pasteur Fontalvo s'est investi en moi. Et par la grâce de Dieu, je vois effectivement de jeunes serviteurs qui apparaissent dans deux ou trois ou quatre mêmes générations ou groupes d'âge. Alors, il est important pour toi aussi de t'interroger à savoir si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, quel est l'héritage spirituel que je lègue? À qui je lègue cet héritage? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui auront bénéficié de mon apport? Et chacun d'entre nous, mais vraiment chacun d'entre nous, avons une tâche à accomplir, avons un héritage à laisser. Et je prie que vous ayez à cœur, effectivement, plus vous voyez les jours avancer, et parce que moi, je suis passé par une situation de maladie importante, de maladie grave, avec un pronostic qui était grave, mais peut-être que la chose vient me chercher davantage. Mais il est important pour vous tous, même qui êtes en bonne santé, même qui êtes probablement plus jeune que moi, il est important de prier, d'intercéder, que Dieu vous permette d'avoir des gens à qui vous allez laisser un héritage spirituel. Donc ici, Élisée va dire quel est l'héritage, Élie va dire quel est l'héritage que tu veux que je te laisse. Et la réponse d'Élisée est souvent méprise. Il va dire que je puisse avoir une double portion de ton esprit. Je vais reprendre la phrase au verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Première erreur que plusieurs font. Ils pensent qu'ici, Élisée est en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se divise pas. Le Saint-Esprit ne se coupe pas en deux, en trois, en dix, puis là tu as un pourcentage du Saint-Esprit. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Le Saint-Esprit habite en toi puisque tu es la demeure du Saint-Esprit, donc tu l'as dans sa plénitude. Ici, on ne parle pas de l'Esprit de Dieu. Après ça, on a la deuxième interprétation qui est, alors on est en train de parler de l'Esprit de Élie. Et on a cette impression qu'Élisée est en train de dire, ce que tu as, je le veux en double. Et on justifie parfois cette interprétation-là, je m'excuse, par le fait que Élisée va, dans son ministère, faire le double de tous les miracles majeurs qu'Élie a eu à faire. Donc si Élie ressuscite une personne, Élisée en aurait ressuscité deux. Si Élie fait tomber le feu une fois, Élisée en ferait tomber deux fois. Puis on a cette espèce de calcul arithmétique. Je pourrais dire que oui, en partie, c'est cela. En partie, effectivement, Élisée est en train de dire, je veux une double portion de ce qui t'anime, ce qui fait de toi que tu es un serviteur que Dieu peut utiliser. Je veux une double portion de cette capacité, de cet état d'être que Dieu pouvait utiliser. Et effectivement, ici, on parle du fait qu'il avait en lui, qu'il était ce que Dieu pouvait utiliser. Et Élisée disait, alors tout ce que Dieu pouvait utiliser chez toi, je le voudrais en double portion. Et je fais exprès de dire double portion parce que je vais revenir à l'explication. Certains vont penser, alors, si Élie avait un esprit, on va dire, de 50, ben Élisée avait un esprit de 5, de 100. Et là, on fait une autre erreur. En fait, ce qu'Élisée est en train de dire, il se réfère à un passage qui se trouve dans Deutéronome 21. Deutéronome 21, je vais aller vite tourner pour vous le lire. Deutéronome 21 et le verset 17. Mais elle reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémice de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Ce que Élisée était en train de demander était effectivement si je suis appelé à te succéder, je veux avoir tout ce qui est nécessaire pour être effectivement à même de faire le travail auquel j'ai été appelé. Donc, il demande, et en plus, il demande à Élie, voici ce que j'aimerais que toi tu fasses. Je voudrais que toi, tu m'accordes une double portion de ton esprit. Donc, cette double portion qui est une double portion par rapport aux autres enfants, pas par rapport à Élie. Élisée est en train de dire, si effectivement tu as posé ton manteau sur moi, si effectivement je suis appelé à prendre ta suite comme tu dis que j'ai été appelé à prendre ta suite, parce que lorsque l'Éternel t'est apparu à la caverne, il t'a dit d'aller poser ton manteau sur moi parce que j'allais être ton successeur. Donc, si je suis ton successeur, je prie que tu intercèdes en ma faveur pour que j'aie cette double portion par rapport aux autres enfants, pour qu'effectivement, je puisse accomplir parmi eux le travail que toi aussi tu faisais. Alors, il demande quoi? Il demande, un, qu'Élie puisse intercéder pour lui. Et ça, c'est important que nous ayons ce réflexe d'aller chercher des hommes, des femmes, des aînés dans la foi qui peuvent intercéder pour nous, être couverts de la prière d'aînés dans la foi. La deuxième chose qu'il demande, il intercède pour les qualifications pour la tâche à laquelle il a été appelé. Il est en train de dire, Élie, avant que tu t'en ailles, je veux que tu pries pour moi pour que je sois apte à faire le travail que toi tu as été capable de faire. Et enfin, en troisième point, il appelle ou il demande qu'Élie puisse intercéder pour que l'autorité qu'il va user lorsqu'il remplacera Élie soit adéquate. Et ça, c'est un malheur qu'on retrouve dans bon nombre de jeunes serviteurs. On est tellement emballé par le travail auquel on est appelé, on est tellement convaincu de la véracité de cet appel que notre autorité en devient très, très vigoureuse, très dure. Élisée est en train de dire, si effectivement je suis appelé à être un serviteur de l'Éternel comme toi, et si Dieu veut m'élever effectivement au-dessus de mes frères pour les servir et pour servir de mentor et de guide et de modèle. Mais je veux que l'autorité qui me sera conférée soit la bonne autorité. Je ne veux pas dépendre d'une autorité que moi-même je mettrai sur mes propres épaules. Je ne veux pas dépendre d'une autorité que moi-même je bâtirai. Mais je veux que cette autorité-là me soit déléguée à même de Dieu. Et on voit ce qui se passe par la suite, et c'est effectivement ça. Élisée n'a pas été obligé de se battre pour asseoir son autorité. Élisée n'a pas été obligé de frapper les uns et les autres, de faire descendre le feu sur ses opposants pour établir son autorité. Il y avait quelque chose de tout naturel qui venait dans cette transition qui va s'opérer entre Élie et Élisée. Pourquoi? Parce que Dieu était là-dedans. Alors nous devons aussi apprendre à demander à Dieu pour nous qui servons, pour nous qui sommes appelés à servir, pour nous qui commençons à servir peut-être pour certains. On doit demander au Seigneur que ça ne me monte pas à la tête, que je ne sois pas d'une autorité si autoritaire que mon modèle d'autorité, c'est je tranche la tête, je décapite et je frappe le plus fort possible. Élisée n'a pas été obligée de se battre. Si Dieu te place à un endroit, tu n'es pas obligé de te battre pour cette place-là, parce que en premier plan, ben personne ne peut te voler cette place-là. Parce que te voler cette place-là, ça voudrait dire qu'ils ont volé cette place d'entre les mains de Dieu. Cette place-là est entre les mains de Dieu et Dieu te la garde jusqu'à ce que ce soit ton temps, ton moment. Personne ne peut te voler cette place. Si on était capable de te voler cette place, c'est parce qu'on serait capable de voler Dieu et personne n'est capable de voler Dieu. Alors voilà pourquoi on peut être beaucoup plus humble, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux dans notre attitude. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fermeté dans un leadership. Ce qui ne veut pas dire qu'un leader n'est pas leader ou qu'un leader ne conduit pas et que par moment un leader n'est pas appelé à trancher. Oui, ça fait partie du leadership et ça fait partie du ministère que Dieu accorde à certaines personnes qui placent au-dessus d'un groupe, au-dessus d'une congrégation, au-dessus d'une fédération ou autre. Mais ce leadership doit tout le temps être béni avec énormément d'humilité, avec énormément de douceur et avec énormément de compassion pour les personnes que nous servons. Élisée, lorsqu'il demandait cette requête d'une double portion de l'esprit d'Élie, il était en train de dire, je sais que je n'ai pas humainement parlant ce que ça prend, que je n'ai pas encore au niveau de l'expérience ce que ça prend, que je n'ai pas encore au niveau de l'onction ce que ça prend, que je n'ai pas encore au niveau de la maturité ce que ça prend, mais je demande que cela me soit dérogé, que cela me soit plutôt octroyé par le Seigneur. Et cette prière, elle est pour toi et cette prière, elle est pour moi. Peu importe le service où Dieu m'appelle, peu importe le service dans lequel je suis impliqué, je dois prier pour que de rester humble, de rester enseignable, de rester docile à la voix de Dieu, de rester doux, de rester rempli d'amour, de compassion et de ne pas devenir un leader aigri, un leader rustre, un leader violent. Jésus n'était pas un leader violent et il est notre exemple suprême de leadership et on devrait avoir cette même attitude. Élie va lui répondre, la chose que tu demandes est difficile. Au verset 10, tu demandes une chose difficile. Qu'est-ce qui était difficile? C'était pas de donner une onction. Donner une onction, c'est facile. Dieu dit, je te donne, et paf, c'est donné. La chose qui était difficile, c'était le ministère. Il dit, tu es en train de me demander une chose difficile. Tu es en train d'aspirer à ce ministère-là, et c'est une chose qui est difficile, mais pas difficile dans le sens qui est infaisable, pas difficile dans le sens c'est un succès profond si tu parviens éventuellement à réussir à le faire. Non, difficile ici veut dire sensible, veut dire important, veut dire primordial. Et c'était donc primordial que Élisée demande l'intercession pour être capable de faire son ministère. Une chose difficile, pas à accorder, mais à exercer. Le service de Dieu n'est pas difficile à accorder. Il y a des hommes qui accordent des ministères à droite et à gauche. Et Dieu, il est facile pour lui d'accorder un ministère. Il est beaucoup plus difficile pour toi et pour moi de l'exercer correctement, de l'exercer avec l'attitude qui se doit, de l'exercer avec le cœur qui se doit, d'exercer un leadership par rapport à ces gens que Dieu place autour de toi, tels qu'ils devraient être, avec la conscience de l'importance de ces âmes, avec la conscience d'une humilité qui doit t'habiter et un désir d'humilité qui doit t'habiter, servir Dieu avec cette douceur qui doit se ressentir dans tes paroles, dans tes gestes, dans tes pensées, dans tes attitudes. Donc, exercer dignement le service est une chose difficile, mais une chose primordiale, une chose nécessaire. Tu ne peux pas servir Dieu de n'importe quelle manière. Et voilà pourquoi Élisée disait, je veux servir d'une bonne manière, alors donne-moi tout ce que j'ai besoin pour être le leader que tu veux que je sois. Dernier point pour ce matin concernant Élisée. Élie va lui dire, si tu me regardes quand je vais être enlevé, tu l'auras. Sinon, tu ne l'auras pas. Est-ce qu'il y avait quelque chose de mystico-mystique, spirituellement déclenchable simplement lorsque le tourbillon emporte Élie? Certains diraient que oui. Voici ma pensée à moi. Élie a essayé de garder Élisée ou a offert à Élisée durant tout ce voyage de rester à chacune des étapes. Reste à Gilgal, je m'en vais à Bethel. Reste à Bethel, je m'en vais à Jéricho. Reste à Jéricho, je m'en vais au Jourdain. et ils ont traversé. Et je pense qu'effectivement, c'était un test qu'Élie lançait à Élisée. Et je pense que le fait qu'il demande à Élisée, lorsqu'ils sont simplement tous les deux, seul à seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est qu'il voulait s'assurer qu'effectivement, Élisée avait ce désir d'être ce qu'il avait été appelé à être. Et ce désir doit être important dans ta vie. Tu dois avoir ce désir de devenir l'homme, la femme que Dieu t'a appelé à être, de devenir le serviteur, la servante que Dieu t'a appelé à être. Donc, il aurait pu y avoir tout simplement une prière en disant, voici, je te bénis aujourd'hui, puis tu es ce que tu reçois, ce que tu viens de me demander. Mais non, Élie a dit, regarde, jusqu'au dernier instant, je veux que tu sois dans l'expectative, dans l'attente, dans l'aspiration de cette chose-là. Je veux que tu la désires jusqu'au dernier moment. Et parfois, nous, on se fatigue dans la prière. On a présenté notre requête une fois, puis là, c'est comme, bon, j'ai fait mon travail, c'en est terminé. Mais est-ce que tu as vraiment ce désir qui va te faire chercher, qui va te garder en quête constamment? Et Élie va garder Élisée en quête de cette double portion d'onction, de cette double portion de talent, de cette double portion d'héritage, et il va le garder en quête jusqu'à ce qu'il s'en aille. Nous devons rester en quête de l'onction de Dieu. Nous devons rester en quête de cette grâce qui vient de Dieu. Et ce faisant, Élisée a été gardé près de son maître jusqu'au dernier instant. Il arrive souvent que quelqu'un se mette à apprendre auprès d'un maître, auprès d'un aîné dans la foi, puis à un moment donné, lorsqu'il a la pensée qu'il sait un peu mieux faire certaines choses, lorsqu'il a la pensée qu'il a assez attendu, certains d'entre eux se séparent de leur maître pour voler de leurs propres ailes. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est même très dangereux. C'est pas biblique même. Regardez David. David n'a jamais tassé Saül, même si David, avant même qu'il ne soit au service de Saül, avait déjà été pour être oint roi. Mais il a attendu tout le processus nécessaire jusqu'à ce que Saül soit enlevé pour lui accéder au trône. Élisée, qui a passé des années auprès de son maître, aurait pu dire à un moment donné, ben, j'ai assez d'expérience, ton manteau a été posé sur moi, laisse-moi maintenant faire ce que je dois faire. Cette attitude se retrouve une seule fois dans les Écritures. Et ça se retrouve avec le fils prodigue qui dit, j'en ai assez d'attendre que tu meures, donne-moi mon héritage. Et il est parti flamber son héritage. Et il est revenu dans un état piteux. Saül était là et David attendait. Élie était là, Élisée attendait. Samuel était là pendant tout le temps où le sacrificateur Élie était encore là. Il ne l'a pas tassé. On ne tasse pas des aînés, on reste auprès d'eux et on apprend. Pourquoi? Parce que c'est des hommes et des femmes qui nous ont précédés dans l'œuvre et de qui on a attiré. Ma relation avec les personnes qui sont un peu plus âgées que moi, ou qui sont même pas mal plus âgées que moi, c'est une relation particulière. J'aime beaucoup les personnes âgées. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils ont un vécu, ils ont une expérience que je n'ai pas, et j'ai besoin d'être entouré de leurs prières. J'avais deux grands-mères spirituelles que Dieu a emportées maintenant. J'avais Granny, la maman de Georgette, Andrise et Marie-Marthe. Et quand je voyageais, je devais aller la voir. Et elle me prenait mes mains dans ses mains et elle priait pour moi. Quand je la visitais, elle gardait mes mains dans ses mains et c'était précieux pour moi. J'avais aussi la marraine de ma belle-mère, qui est un peu comme la grand-mère de Daphné, jusqu'à un certain point, qu'on appelait marraine. Et elle aussi, quand je voyageais, je devais aller la voir. Et elle priait pour moi, elle mettait ses mains. Vous savez comment je vous ai déjà présenté le pasteur Roberts comme étant un peu la figure la plus proche de ce que j'ai d'un grand-père. Et il sait que Mon affection envers lui est un peu comme le petit-fils envers son grand-père. Il est important d'avoir des aînés dans la foi. Il est important de cultiver cette relation avec des aînés dans la foi qui, auprès de qui on reste le plus longtemps possible et qui nous entourent de leurs prières et de leur affection. Alors voilà quelles étaient les recommandations pour nous cette semaine. J'espère que vous avez été bénis par cela. J'espère que vous prendrez les décisions en conséquence de ces enseignements et que vous serez des serviteurs et des servantes toujours progressant dans les voies du Seigneur et dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Alors laissez-moi prier en conclusion de ces bénédictions matinales de cette semaine. Seigneur, tu nous as beaucoup parlé, tu nous as beaucoup instruits cette semaine sur les premières étapes qui ont été nôtres dans notre accession à la foi, dans notre accession au salut. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, où tu nous parles d'une transition dans le ministère, d'une accession à une activité, à un service devant toi, et l'attitude, Seigneur, à cultiver tout au long de ce processus. Avoir ce désir ardent qui fait qu'on n'abandonne pas à une étape, à une autre, parce qu'on a cette conscience qu'il y a davantage. Avoir ce désir ardent de s'équiper, d'apprendre, d'être instruit par toi, oui, à travers ta parole, mais aussi, Seigneur, à travers les aînés que nous avons dans la foi, des hommes, des femmes qui ont un certain parcours que nous n'avons pas, et que tu places dans nos vies, Seigneur, pour nous instruire, pour nous former. Je veux, Seigneur, te remercier pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont été un instrument dans ma vie, qui ont été un instrument d'enseignement, un instrument, Seigneur, didactique quant à comment faire et pourquoi faire les choses pour toi, et comment, Seigneur, garder un cœur humble, docile et soumis, Seigneur, devant toi. Je prie, Seigneur, que tu utilises notre génération aussi pour bénir celles qui avancent, celles qui viendront après nous. Que le privilège, Seigneur, d'avoir été formé par des aînés nous soit aussi accordé afin que nous aussi, nous soyons, Seigneur, des aides, nous soyons aussi, Seigneur, des mentors pour une génération qui croit, qui grandit, qui pousse devant toi. Et au même titre, Seigneur, où tu nous as peut-être suscité à titre d'Élisée, à titre de David, à titre de Timothée, à titre de disciple au pied du Maître, que tu nous permettes aussi, Seigneur, de faire ce que Paul a dit à Timothée de faire, de remettre ce qu'il avait appris des mains de Paul, de les remettre aussi à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de le partager à d'autres. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas garder ce que tu nous as donné pour nous-mêmes. Mais nous voulons, Seigneur, en toute humilité et en toute simplicité, avec toute l'affection et toute la grâce que tu nous donnes, nous voulons aussi, Seigneur, être capables de le transmettre à d'autres, qui sauront eux-mêmes, à leur façon, dans leur temps, le transmettre plus tard à d'autres. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère aujourd'hui. Garde-nous tout au long de cette journée. Arrose, Seigneur, ce qui a été semé en nous par ton esprit cette semaine, et que tu puisses le faire croître et que ça porte un fruit qui t'est vraiment, mais terriblement agréable jusque dans l'éternité. Bénis-nous, protège-nous et guide-nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors voilà, rappel, ce soir, on a la prière à 19h. Simplement, saluer quelques personnes qui se sont peut-être jointes à nous. Si j'en vois, la Madame Maggie, Dieu la bendiga. Parler. Dieu te bénisse. La sœur Marie, ta maman aussi, sois bénie. Jimmy, sois béni. Hello Nadia, God bless. Bonjour à Marjo, à Ramon. J'ai pas tout le nom des personnes qui se sont jointes avec vous. J'ai comme 9 personnes, mais je vois pas les noms. Désolé. Donc Denise aussi, Dieu vous bénisse. Nia Squeen, Dieu vous bénisse. Alors, bonne journée à tous. Il est déjà 9h15. Que le Seigneur soit avec vous, que cette journée soit profitable. Passez du temps dans la prière, passez du temps à chercher la face de Dieu et à voir comment. tout ce qu'on a vu cette semaine pouvait être appliqué dans votre propre vie. Que le Seigneur vous guide, vous instruise et vous dirige en toutes choses. Alors, bonne journée. On se retrouve ce soir pour la prière et l'intercession à partir de 19h. Au revoir à tous.